Au sujet de l'évangile d'aujourd'hui, vous comprenez bien que la parabole que nous livre le Seigneur met en scène le Père éternel, le Père de famille qui plante une vigne, l'entoure d'une clôture, il creuse un puits, il fonde un pressoir, l'entoure d'une clôture et part en voyage. C'était un thème que nous trouvions déjà dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, presque textuellement. Et dans l'Ancien Testament, cette vigne représentait le peuple d'Israël, qu'avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour, le Seigneur entourait, protégeait, arrosait de manière à ce qu'elle se développe et se répande dans le monde entier. Ça reste pareil encore aujourd'hui. La vigne, c'est toujours ses enfants, c'est toujours l'Église qui succède à la synagogue. Mais ce père part en voyage. D'autres fois, on parle beaucoup de, je parle de la vigne, parce que c'est un très beau thème. Mais aujourd'hui, je voudrais insister sur le partir en voyage. Le Seigneur part en voyage, il prépare sa vigne et il s'en va. Et vous comprendrez, si vraiment il s'agit du Père éternel, ce dont je suis certain, vous comprendrez que son départ signifie pour nous tout ce qui nous semble être des absences de Dieu. Combien de fois dans nos vies, on a l'impression que le père de famille, que Dieu est parti au loin, comme s'il nous avait abandonnés, après avoir mis à notre disposition tout ce qui nous est utile, il semble absent, il semble se cacher. Cette expérience est tragique. Cette expérience est tragique, mais elle est fondamentale. Elle est indispensable à toute vie spirituelle. Si on ne goûte pas, j'ai bien dit goûter, j'ai pas dit avec plaisir, mais si on ne goûte pas l'absence du Père, on ne peut pas comprendre sa miséricorde. On ne peut pas comprendre la sollicitude avec laquelle il nous entoure. Et ces absences de Dieu ne sont évidemment pas des oublis de sa part, de la négligence de sa part. C'est évidemment pas une vengeance ou une méchanceté, c'est une pédagogie. Dieu est celui qui passe, et Dieu est celui que l'on cherche. Si on avait trouvé Dieu, s'il se manifestait à nous, on ne le chercherait plus. Or, pour nous les hommes, notre seule joie profonde, c'est non pas dans le fait de l'avoir trouvé, mais sur le fait de chercher Dieu. Par ailleurs, le Seigneur nous dit, vous ne me chercheriez pas si vous ne m'aviez pas trouvé. C'est-à-dire que si on le cherche, c'est parce qu'on l'a trouvé. Parce que Dieu voit notre intention, il voit les mouvements de notre cœur, il voit la force, l'énergie avec laquelle nous le cherchons. Et relisez le Cantique des Cantiques, et vous verrez que dans le Cantique des Cantiques, Le bien-aimé et la bien-aimée se cherchent mutuellement et perpétuellement. Et c'est cette recherche-là qui est l'objet, l'objet de leur joie, parce qu'ils ont la joie de le rechercher, de se rechercher, pardon. Ces absences de Dieu, je vous disais, ne sont pas des oublis de sa part, sont une pédagogie. Mais pourquoi aussi? D'où vient cette impression que nous avons de l'éloignement, du silence de Dieu? Je vous ferai remarquer en passant que nous ne sommes pas les seuls à ressentir douloureusement cette absence de Dieu. L'innocent suprême, le Christ, deuxième personne de la Trinité, au moment de Gethsémani, et si j'en crois au récit de la tentation du début de son ministère, qui voudrait dire que l'ensemble de sa vie était sous le signe de ces tentations, le Seigneur lui-même a connu cette déréliction, cette apparente absence de son Père. Quand il était à Gethsémani, au seuil de la passion et de la mort, il suppliait son Père et son Père semblait ne pas lui répondre. Et c'est une réalité qu'il a assumée jusqu'à son dernier soupir. Parce que l'absence est une présence. L'absence du Père est une sollicitation pour une démarche personnelle de recherche, donc d'expérience. Dieu est le tout autre. Le Père ne veut pas se connaître. On ne peut connaître le Père que par notre recherche. Si on le recherche, c'est qu'on le connaît. Et si on le recherche, si on le connaît, c'est qu'on l'aime. Bien sûr, égoïstement, nous voudrions être comblés de sa présence. Mais il nous tromperait. C'est dans le silence de Dieu, dans l'absence de Dieu, qu'on le connaît parce qu'il est au-delà de toute connaissance. On ne peut pas le connaître intellectuellement. On ne peut pas le connaître affectivement, mais on peut le chercher. Et s'il y a en nous une once de recherche de Dieu, c'est parce que l'Esprit Saint a mis cette recherche dans notre cœur, et l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. C'est tragique. C'est tragique parce que nous sommes aveugles. Parce que ces absences de Dieu, cette apparente absence de Dieu, n'est pas le résultat d'un abandon, mais c'est le résultat de notre déchéance. Il est absent parce que nous nous cachons de lui. Il est absent parce que nous n'avons pas le courage de le regarder en face. Il est absent parce que nous détournons de lui. Il nous gêne dans notre égoïsme. Nous préférons qu'il s'écarte pour que nous soyons libres de vivre à notre guise, suivant les principes égoïstes de notre monde. S'il se cache, c'est parce que nous avons une grille, nous avons un écran devant les yeux qui nous empêche de le voir. Et cet écran, c'est notre péché, c'est notre déchéance. Je ne parle pas de nos péchés, je parle de notre condition de pécheur. Quels que soient les degrés de nos péchés moraux, si je puis dire, Nous sommes tous dans la même galère. Nous sommes tous autant pécheurs les uns que les autres. C'est notre nature, notre propension à nous détourner de Dieu qui nous provoque cette cécité. Parce qu'il avait mis à la création, il avait mis en nous la faculté de le connaître, de le voir. Rappelez-vous, dans le paradis, l'homme marchait avec Dieu, l'homme conversait avec Dieu, l'homme avait l'expérience de Dieu. Et depuis le péché, nous ne sentons plus cette expérience-là. Rappelez-vous aussi le magnifique dialogue, les lamentations d'Adam que nous lisons ici tous les ans. Au moment de la Semaine Sainte, rappelez-vous comment l'homme exclu du paradis, c'est-à-dire l'homme expérimentant l'absence ou le silence de Dieu, comment Adam pleurait pour le rechercher. Si bien que nous-mêmes, lorsque nous ressentons cette absence ou ce silence de Dieu, réjouissons-nous, parce que nous crions avec Adam et avec toute l'humanité. Nous crions à Dieu que nous l'aimons. Et si nous crions que nous l'aimons, c'est parce que nous croyons en lui, c'est parce qu'il est devant nous, c'est parce qu'il y a une relation avec lui qui ne peut pas être une relation humaine, physique, sensible. Mais il nous fait accéder de cette manière-là à un autre état d'existence, perceptible seulement par la foi. Bien sûr, on peut se lamenter de cette cécité parce que nous sommes pécheurs et nous devons battre notre culpe, nous devons nous repentir. Mais de combien de péchés pouvons-nous nous guérir ? La seule chose que nous puissions faire, c'est accepter avec humilité notre condition de pécheur, que chacun exprime, que chacun assume à sa manière, les uns par l'orgueil, les autres par l'égoïsme, les autres par le meurtre, les autres par la jalousie, les autres par l'avarice, les autres... Chacun à sa manière. Il n'y a pas de petite manière, il n'y a pas de grande manière. C'est pour chacun l'expérience de notre condition déchue. C'est tragique. C'est tragique, mais si on le prend avec foi, quelle joie au contraire. Savoir que c'est un don de Dieu. Le silence de Dieu, son absence, c'est le don de lui-même. C'est paradoxal. Ça nous étonne. C'est notre expérience pourtant. Vous avez tous l'expérience depuis votre tendre enfance d'avoir attendu pour une fête, un anniversaire, un Noël, d'avoir attendu longtemps de recevoir tel cadeau ou d'accéder à telle condition. Vous avez attendu ça avec joie, avec impatience. Et lorsque vous l'avez eu, dans les minutes qui suivaient, il n'y avait plus d'intérêt. C'était acquis, il n'y avait plus d'intérêt. C'est comme ça qu'agit Dieu. Tant qu'on le recherche, on est joyeux de le rechercher. Ah, humainement parlant, on souffre. Beaucoup. Mais intérieurement, quelle exultation, si on veut bien regarder à ce niveau-là. Et si vous voyez ainsi, avec la foi, votre vie, que représentent vos péchés ? Rien. Vos péchés, oui, les miens, tous pareils, nos péchés sont du non-être. C'est quelque chose qui vient de nous, mais ça n'existe pas aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il est miséricordieux. si vous acceptez de mettre vos péchés derrière vous, si nous acceptons de mettre nos péchés derrière nous, à ce moment-là, on retrouve notre relation vivante avec Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pécher allègrement en disant « on le trouvera toujours ». Ça veut dire aussi de faire effort, évidemment, pour essayer de ne pas pécher, mais le résultat ne dépend pas de nous. Et s'il en est ainsi, la seule manière de dépasser ce silence de Dieu, c'est de faire ce que vient de faire notre Fotini, de se convertir, de se mettre à la lumière, sous la lumière de Dieu. Et je n'extrapole pas le passage de l'évangile que je veux commenter. Rappelez-vous que à la fin, après avoir vu que les vignerons avaient tué les envoyés du père de famille, y compris son fils, l'héritier. Vous comprenez bien que l'héritier, c'est le Christ que l'on a crucifié, que l'on crucifie encore, d'une certaine manière. Mais la solution, qui va envoyer? Il n'y a plus de fils, il n'y a plus d'héritier à envoyer. Et le Seigneur conclut sa parabole par « N'avez-vous pas entendu dire que la pierre qu'avaient rejeté les baptiseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'angle ?» La pierre rejetée par les baptiseurs, c'est le Christ, bien sûr, le rocher, le roc rejeté, crucifié. Mais c'est elle, c'est ce roc, cette pierre-là, qui est devenue le socle du salut de la vigne, parce que c'est sur ce roc abandonné par les bâtisseurs, c'est là-dessus qu'est bâtie toute l'Église et toute notre vie éternelle, c'est-à-dire sur le Christ. Et si dans notre vie, nous avons l'impression, nous rejetons la pierre comme les bâtisseurs, c'est-à-dire si nous rejetons le Christ par nos propres fautes, par nos péchés, quel qu'en soit le mode d'exercice, c'est sur cette pierre-là, cependant, qu'est bâti notre salut. C'est sur l'absence de Dieu que nous provoquons qu'est bâti notre salut et notre accession à la vie éternelle. Et c'est pour cela que le Seigneur continue, cela émerveille à nos yeux. Dans un texte de Pendant l'Orthros, nous exprimions, je ne sais plus comment, que nos péchés, que le Seigneur ne tenait pas compte de nos péchés, de nos iniquités. Le Seigneur est amour et lui, il est là. Comment voulez-vous qu'il tienne compte de nos péchés? La seule manière dont il pourrait en tenir compte, c'est en nous anéantissant ou en n'existant plus. Or, sa volonté a été de nous faire exister et non pas de nous anéantir. C'est impossible. Et que lui disparaisse, c'est impossible puisqu'il est vie éternelle. Donc, le Seigneur est toujours présent avec nous. À nous simplement d'accepter que cette pierre rejetée des bâtisseurs soit merveille à nos yeux, d'accepter que les conséquences de notre condition pécheresse, notre cécité, nos atténuements de tantôt choisir Dieu, tantôt de le repousser, qui sont des mouvements pécamineux, certes, mais à nous d'accepter qu'à travers cela se manifeste la présence du Seigneur. Et vous verrez alors que, au lieu que notre vie soit un poids, soit une lamentation, à travers la peine humaine, la sèse, l'effort et le sentiment d'abandon qui est le nôtre, vous verrez que dans le fond de notre cœur naîtra une joie alimentée par la réception de l'Eucharistie, c'est-à-dire en alimentant ceci par la communion donnée par Dieu en lui aux hommes, assimilée et personnalisée, intégrée par la prière autant que faire se peut, jaillissant en un esprit d'amour, un esprit de charité les uns pour les autres, vous verrez à ce moment-là comment Dieu agit dans nos cœurs, agit dans nos vies, et que c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous fait vivre, c'est-à-dire qui nous donne une autre vie que notre vie purement physico-psychique. Cela est vraiment merveille à nos yeux. Relisez ce passage de cette parabole. Elle est un peu présentée d'une manière un peu différente, suivant les évangélistes. Mais une chose est remarquable, c'est que dans l'ensemble des évangiles, les trois évangiles synoptiques, je veux dire, il y a simplement trois paraboles qui se retrouvent dans toutes les trois, dans les trois évangiles, ce qui montre leur importance. Et celle-ci est une des trois. C'est paradoxal, mais son absence, provoquée par nous, est une merveille à nos yeux, c'est-à-dire aux yeux de notre foi. Et quand vous êtes dans la peine, quand vous êtes dans la souffrance, je pense de souffrance morale, souffrance intérieure, ne restez pas enfermés là-dedans. Rendez-vous compte que acceptez avec humilité votre condition, votre déchéance. Et croyez bien une fois de plus que quand je dis votre, je pense nous, mais enfin... Acceptez ça avec humilité et vous êtes sûr que le Seigneur répond au moment même, en ce moment même, répond à votre soif qui se manifestera, qui un jour pourra éclore quand Dieu saura que c'est le bon moment et vous remplira de joie. Mais déjà maintenant, au cœur même de la difficulté, vous pouvez au fond de votre cœur sentir une joie. C'est déjà une merveille à nos yeux. À plus forte raison, lorsque un jour, peut-être sur votre lit de mort, peut-être avant, vous aurez la joie dangereuse de vous rendre compte, de sentir plus vivement la présence de Dieu. Je dis présence, expérience dangereuse, parce qu'à ce moment-là, on risque fort de se satisfaire de ce que l'on aura reçu et de ne plus chercher, c'est-à-dire de tout perdre. Si on ne cherche plus Dieu, on perd Dieu. Si on le trouve, on risque de ne plus le chercher. Donc il faut constamment, constamment, constamment le chercher.